Allô ? Allô ?
1, 2, 1, 2, 1, 2.
Donc on fait pas les rototo dans le micro, c'est ça ?
Ça c'est la seule chose, on rote pas au micro.
C'est une émission sérieuse. Pardon.
Bonjour et bienvenue dans...
Excellent.
Bah Chocobo.
Oui, mais je veux le jeu.
Final Fantasy 7.
Je fais l'appel, yo.
Oui, bonjour.
PM.
Présent.
Monsieur l'ours.
Hey, hey.
Et Shoutan.
Bien sûr.
Vous allez bien?
Ouais.
Bien.
Ça fait un mois et demi depuis la dernière émission, c'est vrai que
c'est beaucoup trop long.
Le temps passe, ouais, c'est incroyable.
C'est le temps passe.
Il faisait chaud la dernière fois et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est hiver.
Et ouais, ça y est, il fait nuit à 18h bientôt.
Il y avait du monde dans le métro, c'était un truc de fou. Ouais.
Bah oui, c'était la rentrée, ça s'est bien passé, votre rentrée, si tant est que vous en avez eu.
Tranquillement, pour ma part.
Ouais.
J'en ai pas eu.
Moi, je suis parti en vacances.
Oui, voilà. Toi, t'as fait tout à l'envers.
Ah oui,
tout à fait. Ouais.
Des bonnes vacances.
Mm-hmm.
Alors, toi, tu reviens de 3 heures de route, t'arrives, tu poses tes fesses. Ça va, t'es pas trop crevé?
Non, je suis super impatient de faire ce podcast avec vous.
Bon, bah parfait. Parce qu'on a eu des bons retours aussi, des gentils, des gentils retours, disons-le. Hein. C'est le moment un petit peu de.
On n'a pas eu de méchants retours.
T'as fait plaisir. Et on espère que ça vous plaira toujours. On va faire un petit sommaire. On va faire. Ouais, je vais commencer par Shoutan. De quoi tu vas nous parler?
Alors, je vais vous parler d'une rubrique qui s'appelle le Code Quantum du jeu vidéo. C'était assez énigmatique. Ce sera tout de suite, donc on va pas trop en parler.
Une petite interlude?
Ça s'appelle Canis Canem Edit. C'est très latiniste, un peu, mon truc.
Ah ouais, ouais. Je me revois en cinquième, tu vois.
C'est Excelsior. Hein,
PM?
Alors, moi, je vais vous parler d'un des voyages que j'ai fait. J'aime bien voyager et... Ah. Ça va se découler sur plusieurs épisodes, je pense.
Oh, tu fais de la narration, de la sérialité.
Ouais, enfin, c'est plus du petit tips, des trucs à faire, enfin.
Une petite interlude? Non, pas d'interlude.
Non, c'est pas cette fois.
Très bien. Yo-ho!
Eh bien, moi, j'ai regardé Germain Sétain à l'incitation de Monsieur l'Ours.
Tout à fait.
Donc, je vais vous en parler. Et puis, je vous ai préparé aussi un petit blind test mettant en valeur notre belle langue française.
Notre exception culturelle française.
Notre exception culturelle, voilà.
Monsieur l'Ours.
Oui, eh ben, je vais continuer avec un hashtag culture G, une expression... on va aller aux sources d'une expression qu'on utilise régulièrement et on va voir ce qui se cache derrière pour notre plus grand plaisir.
Et moi, je vous ai prévu un habituel Jeopardy, hein, pour vous faire jouer sur l'actualité déprimante. D'ailleurs, j'ai pas une bonne actu dedans.
Ah,
une actu positive.
Pas une bonne nouvelle.
Et on va aussi faire un petit cours de vocabulaire. Parce que il faut quand même c'est toujours bien d'apprendre des nouveaux mots.
Ce mot, nous ne le connaissons pas,
ni vous, ni nous.
Ni vous, ni nous.
Le petit chat.
Alors, on va commencer cette ronde des sujets avec une chronique de Shoutan.
Tout a commencé alors que je voulais voyager dans le temps et les vieux jeux. Là, l'horloge PlayStationique déréglée me fit passer de l'état de streamer rétro à celui de prince en galère. Depuis, j'essaye de me dépatouiller avec ces personnages que je ne connais pas, en espérant un jour aller plus loin que le village où j'ai débarqué. Donc, pour résumer, j'ai voulu voir si on pouvait retourner dans un jeu non terminé et s'en sortir, et vous allez voir, pour cette première occasion, c'était pas facile. Faut dire que je m'étais pas franchement laissé de bonne chance. Pour ce galop d'essai, j'ai voulu me replonger dans Suikoden 5, un jeu sorti en 11 après LZ de Konami sur PS2. Si vous connaissez pas la série des Suikoden, pour résumer, ce sont des JRPG assez denses et épiques, avec des histoires relativement matures et dont les épisodes 2 et 5 sont révérés, surtout le 2. Dans ces jeux, on incarne en général un jeune homme qui va se retrouver dans une situation inextricable et va devoir fonder un clan rebelle et tout casser pour d'abord se protéger lui et ses amis, puis renverser un éventuel ordre établi maléfique. Du classique, quoi. Sauf que dans ces jeux, on peut recruter plus d'une centaine de personnages pour nous aider, tenir le camp, château, grotte fortifiée, et le tout enrobé par des phases variées d'exploration, combat, des batailles rangées et diverses activités comme la pêche ou la chasse au trésor. Consultant les données de ma carte mémoire, je vois que je n'ai pas touché au jeu depuis le 5 avril en 14 après LZ, c'est-à-dire depuis presque 10 ans et demi. Le compteur indique que j'ai quand même joué 37 heures, et bon, quand même, ça doit bien laisser quelques souvenirs. Bref, trêve d'explication, lançons le bazar. Donc pour tout de même tenter de me rafraîchir la mémoire, je laisse tourner l'intro. Et là, c'est assez incroyable. C'est presque comme si je n'avais jamais joué à ce jeu. Les personnages défilent, ils me disent vaguement quelque chose, mais les événements décrits me semblent si étranges et lointains que c'est presque une redécouverte. Ceci dit, bon, j'arrive quand même à reconnaître le héros. Il manie une espèce de bâton, et puis il y a son garde du corps aussi, une fille dont j'ai oublié le nom. Et puis il y a une grande dame bien habillée, ça doit être la reine. Il me semble qu'elle est pas super sympa, il y a des flammes, il y a des gens qui explosent. Sinon le reste, c'est le grand vide. Les personnages défilent tels des gravures lointaines d'un passé oublié. L'intro se termine, l'appel à l'aventure, et évidemment je fais continuer pour charger ma partie, parce que 37 heures de jeu quoi quand même, allez. Et me voici donc transporté devant le point de sauvegarde de la ville de Lelkar. Et encore, ça c'est parce que le temps de chargement me le disait. Aucune idée d'où est cette ville, ni ce que je suis supposé y faire. L'équipe avec mon personnage est réduite, composée de Lyon, la garde du corps, donc maintenant j'ai son nom, et de Kyle, qui semble être un chevalier, vu comment il est habillé, un grand blond. La ville où je me situe est relativement grande et semble être composée de plusieurs îles reliées par des ponts. Les habitants disent des trucs à propos d'une armée qui sera en chemin, autant dire que je pensais être dans un moment sinon crucial du jeu, au moins relativement important. Après avoir papoté avec les gens et visité quelques maisons et magasins, je me rends compte déjà d'une part que je ne peux pas sortir de la ville, et que j'ai déjà visité aussi un manoir, il y a un coffre qui est ouvert, bon, ok. Et je tombe aussi à un endroit où je suis supposé aller, une salle de commandement, où on me demande « Alors prince, on lance les opérations ?» Quelles opérations ? Impossible de le savoir, donc autant lancer les opérations, quelles qu'elles soient. Et me voici donc embarqué dans une bataille rangée où je dois gérer des troupes que je ne connais pas, pour un objectif que je ne connais pas non plus, à affronter des gens qui sont probablement méchants. Ils sont habillés en gris et ils ont des chaussures à fermeture éclair. Mais je ne connais pas leur grief. Autant dire que le premier essai fut long et peu concluant. Ne sachant pas comment fonctionne cette phase de jeu, je me retrouve débordé de tous les côtés, laissant les combats et des pouvoirs spéciaux au petit bonheur de la chance. Mais subissant de lourdes pertes, et finalement, après une défense héroïque, le brave prince rebelle meurt écharpé par les soldats ennemis. Après ce premier échec, je relance la bataille. Cette fois-ci, je suis un poil plus au fait des objectifs, un peu plus confiant, ça devrait mieux aller, non ? Eh ben non, c'est même pire. Autant dire que si j'avais vraiment été Sam Beckett plongé dans les sandales du prince, la série Code Quantum aurait été écourtée. Heureusement, c'est un jeu vidéo, donc on peut toujours relancer une vieille sauvegarde. Je reprendrai peut-être plus tard. Dans moins de 10 ans, par contre. Bon. Pour finir, j'ai regardé un peu où j'en étais sur un walkthrough, et globalement, je suis même pas à la moitié du jeu. Et le pire, c'est qu'il s'agissait a priori de la cinquième bataille rangée. Je n'en avais aucun souvenir. Autant dire que Suikoden 5, il vaut mieux le faire assez vite, dans un laps de temps peu étendu, pour ne pas se retrouver largué.
Et tu n'as pas gardé des souvenirs impérissables, apparemment.
Bah, c'était il y a 10 ans quand même.
En 10 ans, ouais.
Et de l'eau a coulé sous les ponts de l'Elkar.
Eh ben écoutez, on va passer aux interludes. Et bien sûr, on a des petites surprises pour les ceintures.
Une rubrique devant, une rubrique derrière, c'est tout le concept des interludes.
Alors, interlude, nous avons un interlude de Yo-Ho.
Oui, donc moi je voulais faire honneur à Jacques Toubon aujourd'hui en francisant un petit peu les chansons, les tubes que nous avons tous en tête. Donc voilà, donc j'ai eu recours à notre ami Google Translate. Et je l'ai laissé traduire les paroles des chansons, donc c'est assez simple, je vais vous lire les paroles en français, et vous allez devoir retrouver la chanson.
Oh, ça va faire ça. Allez.
C'est clair ? Okay, ouais. Donc je commence. Ce que je vais dire peut paraître fou. Soleil, elle est ici. Vous pouvez faire une pause. Je suis une montgolfière qui pourrait aller dans l'espace, avec l'air comme si je me fichais de bébé en passant, parce que je suis heureux. Applaudissez si vous vous sentez comme une pièce sans toit, parce que je suis heureuse. Applaudissez si vous savez...
Pharrell Williams, Happy.
Exactement.
Carrément.
Ah oui, d'accord.
Ah bah oui.
Vas-y, chante par-dessus.
Ça va être difficile, mais en tout cas, vous pouvez savoir que vous êtes heureux comme une maison sans toit. Comme une pièce sans toit.
Des paroles profondes.
Relis les Beatles en français.
Oui, c'est ça. Clair.
Vous allez voir, c'est pas forcément le pire. Faut que je parle dans le bidule.
Mieux dans le bidule.
Attention, celle-là, elle peut être plus facile.
Comme plus difficile.
Silence dans la salle.
Difficile. Attention, concentration. Bébé, tu ne peux pas voir. J'appelle. Ah. Un mec comme toi devrait porter un avertissement. C'est dangereux. Je tombe. Il n'y a pas d'échappatoire. Je ne peux pas attendre.
C'est pas Toxique de Britney Spears ?
Exactement.
Oh, trop fort.
Eh.
J'adore ce morceau.
Il est extrêmement bien produit.
C'est un morceau classique du 20e siècle, oui. Du 21e
du
siècle.
Du répertoire de Britney Spears.
Dans Doctor Who.
Ah ouais ? Ah oui.
Eh oui. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Vous pouvez danser, tu peux te moquer, avoir le temps de votre vie, au voir cette fille.
C'est Time of My Life.
Regarde cette scène creusée dans La Reine qui danse. Ah bah.
Diggin' the Queen's.
Oui, Dancing Queen.
Dancing Queen. Oh putain.
Ouais, c'était pas.
Exactement.
Ah, moi j'essaie de le retraduire au mot près.
Ah, c'est ça, c'est Mickey.
C'est Minnie.
Salut, c'est Mickey. C'est Mickey qui danse et qui chante du ABBA. Tout va bien. Ça, c'est la chanson classique des mariages et des.
Grave.
Et des communions.
Vivre facile, vivre libre. Abonnement sur un aller simple. Ne rien demander. Laisse-moi être. Prenant tout dans ma foulée. Pas besoin de raison, pas besoin de rime.
ACDC, Highway to Hell.
Ah, j'avais autre chose, mais je suis parti trop loin. J'avais The Connell 74-75.
Ah ouais, c'était pas tout à fait la même.
Ah non. Alors, il faut que tu le chantes en français, mais avec l'accent de... Allez.
De Tony Scott.
On te laisse partir fumer 3 paquets de clopes.
Alors, est-ce que Highway to Hell est une réponse à Stairway to Heaven?
Je sais. Non, il me semble pas. C'est en référence à un bar qui s'appelait qui était au bout d'une longue route avec plein d'accidents.
On sent les professionnels de la musique.
Prêt pour le suivant. Celle-là, ça peut aller très vite. Le club n'est pas le meilleur endroit pour trouver un amoureux.
S-Club 7. Ah,
j'apprécie la référence.
J'ai entendu club.
Donc le bar est l'endroit où je vais.
Ah, Inda Club.
Moi et mes amis à la table en train de faire des coups. Boire vite et ensuite on parle lentement. Viens et commence une conversation avec moi. Et croyez-moi, je vais lui donner une chance maintenant. Prends ma main, arrête. Mets Van the Man sur le jukebox. Et puis on commence à danser. Et maintenant je chante comme... Fille, tu sais que je veux ton amour. Ton amour a été fait à la main pour quelqu'un comme moi. Allez maintenant, suivez mon exemple. Je peux être fou, ne me dérange pas.
I was made for loving you.
De Kiss ?
Non, pas du tout dans ce domaine-là. Dis mon garçon, ne parle pas trop. Attrape ma taille et pose ce corps sur moi. Allez maintenant, suivez mon exemple. Viens maintenant, suis mon exemple. Je suis amoureux de ta forme.
I love your shape. Ah, c'est pas
Shape of You. De Ed Sheeran.
Ed Sheeran.
Il a fallu le mot.
Il a fallu arriver au refrain.
Il a fallu
la
forme. Quoi. Petit mot déclencheur. I'm in love with the shape of you.
Ed Sheeran fonctionne moins bien.
Ed Sheeran qui ressemble à une canette de Desperados. Je sais pas si vous avez vu ces tatouages.
Est-ce que c'est... Alors oui, j'ai pas compris si c'était des vrais ou pas, mais effectivement, c'est assez effrayant.
Ah oui, ou une trousse d'adolescent.
Oui, j'ai vu sur Twitter, effectivement, le commentaire d'un agenda de collégien. Je trouvais ça pas mal aussi.
Et alors, la dernière. Jeune homme, il n'y a pas besoin de se sentir déprimé.
YMCA ? Non.
Oui.
Quoi ?
Ouais, ah mais oui,
Young Man. On n'a même pas pu apprécier la beauté des paroles.
Tu nous as séché sur la ligne de départ direct.
Ce connais deux mots en anglais. Coup de bol, ils
et tu connais les deux mots, c'est Yogman.
C'est bizarre.
J'ai hâte d'avoir ta chronique sur le voyage, je pense que ça va être intéressant.
Alors que je me baladais à Cancun,
j'ai quelques tips pour vous. La carte d'identité, demandez-la à chaque fois.
Jeune homme.
Y a pas besoin de se sentir de pas
dépressé.
Bien.
Dépressé. Dépressé. Jeune homme. T'as rien à dire.
Dépressif.
Dépressif.
Jeune homme, prends ton pied. J'ai dit jeune homme parce que tu es dans une nouvelle ville et il n'y a pas besoin d'être malheureux.
Vas-y, fais le refrain. Ah bah non, il est pas encore.
Il est loin.
Ah, il y a encore un couplet.
Ça pourrait être une prochaine évolution de ce blind test, les chanter avant et diffuser le.
Oui, on alors comme j'étais, fureur, j'étais pas sûr au niveau de mes capacités.
De tes capacités
vocales, voilà. Vous pouvez vous faire nettoyer.
Non.
Vous pouvez avoir un bon repas. Vous pouvez faire ce que vous ressentez.
C'est totalement en fait un jingle de pub pour la fistinière.
Je dis rien.
Normalement, ça aurait dû être traduit en ACJH.
Oui, et alors il y a vraiment des YMCA, même en France, à Paris, il y a le théâtre de Trévise qui derrière, il y a le YMCA.
Ouais, c'est des auberges de jeunesse pour chrétiens en fait.
Oui, c'est ça.
Bah, c'est Young Men Christian Association.
Ah merde.
Eh ouais.
On en apprend tous les jours.
Mais t'es pas obligé d'être chrétien pour y aller.
Il faut juste bien aimer te faire nettoyer.
Voilà.
Sans
alors
être
on va
déprimé.
Te faire reluire le conduit.
Et ben on va passer à PM qui a la lourde tâche de
d'enchaîner là-dessus.
D'enchaîner, oui.
Et ouais, en plus c'est un peu en rapport parce que. Je vais vous parler d'un des voyages, j'aime bien voyager, donc j'ai fait un voyage en 23 après LZ, à cette période-là, et ça me revient en tête là en ce moment, donc je me suis dit je vais en parler. Donc je suis allé en Californie. En Californie, donc enfin c'est un état des États-Unis qui est situé sur la côte ouest des États-Unis, coincé entre Mexique, l'océan Pacifique, l'Oregon, le Nevada et l'Arizona. Donc comment ça s'est passé en gros, je vais vous le faire en petite partie, mais après 11 heures de vol, je débarque à Los Angeles, 9 heures de décalage dans la vue, il fait 26 degrés, on est au mois d'octobre, fait plutôt bon, et j'arrive à Los Angeles, et Los Angeles, alors moi j'en avais pas entendu que du bien, comme quoi c'était une ville pas très sympa, pas très... Fin...
Ah mais il y a l'IQ quand même.
Et exactement. Et en plus, enfin voilà, pas trop à ne pas y rester parce que c'est pas forcément agréable à vivre. En fait, ça se visite par quartier. C'est vraiment c'est une énorme ville. Donc pour circuler, il faut prendre la voiture. Le plan, c'est si vous faites pas un road trip en Californie, prenez un Uber. Ça vous revient à moins cher que de prendre les transports en commun. C'est plus rapide et ça permet de pas se galérer pour se garer. Donc un des premiers quartiers que je conseillerais c'est alors excusez mon accent anglais, j'ai pas trouvé beaucoup de chansons tout à l'heure, c'est parce que je suis une chèvre en anglais, c'est Downtown, c'est le centre-ville de Los Angeles.
C'est honnête comme prononciation.
Ça, j'ai répété Downtown, toute la journée.
J'ai 8
ouais,
sur
parce
10
parce que tu regardes Downtown Abeille.
Ouais.
Le film vient de sortir. Pardon.
Et Downtown, bah il y a pas mal de trucs, alors il y a un peu de tout. Moi je conseillerais, si vous aimez les trucs de musée d'art moderne, il y a le Broad qui est un super musée d'art moderne, c'est moi celui que j'ai préféré dans tous ceux que j'ai vus. Le bâtiment est magnifique, il est blanc, il est hyper design, il est de 2015 et on retrouve des œuvres. Alors des fois l'art moderne ça peut être un peu lourd, compréhensible et voire chiant, souvent chiant d'ailleurs. Et mais il y a des trucs comme Jeff Koons. Jeff Koons, donc le gars qui a fait les tulipes qui ont été mis à Paris là récemment. Il y a des trucs de Roy Lichtenstein, c'est des dessins très graphiques. on peut, ça s'apparente à ce qu'on voit dans les...
Shine, c'est très très beau.
C'est chouette, ouais. Si vous connaissez Les Amours, c'est un peu ça.
Oui, c'est ça. c'est exactement ça.
Oui, effectivement. C'est...
Le décor arrière, hein, pas Tex.
C'est ça, ouais. Non, bah, on pas l'a l'humour. Plus, ce pauvre Tex. Enfin, ce pauvre. Bref. Enfin, super. Il y a plein de... Il y a vraiment beaucoup d'œuvres hyper bien. Je vous conseille d'enchaîner après sur Walt Disney Concert Hall, qui est une salle de... une salle de concert qui est juste à côté, à visiter, je sais pas, je l'ai pas fait, mais l'extérieur est super sympa. C'est un bâtiment qui a été fait par Frank Getty, donc des formes très courbées, beaucoup d'arrondis, c'est des formes torturées. C'est le même gars qui a fait la Fondation Vuitton à Paris ou le Guggenheim à Bilbao.
Ah, Guggenheim de Bilbao.
Et bah
très,
c'est
très
quasiment le même.
Qui
quoi.
M'a donné le vertige.
Ah, c'est magnifique.
Ces étages en verre
à regarder, en plus c'est assez hallucinant. Dans un autre univers, un peu plus loin, il y a la cathédrale de Notre-Dame de Los Angeles, qui est un bâtiment hyper moderne, qui a été construit en 2002, et l'intérieur est l'intérieur d'une cathédrale, plutôt tranquille, on va dire, mais un orgue magnifique. Et il y a une espèce de crypte qui est en dessous, où, qui est souterraine d'ailleurs, où il y a des vitraux, bizarrement, malgré le fait qu'elle soit souterraine, et il y a des milliers de tombeaux. Donc on voit les gens qui font la visite de ce truc-là, c'est assez incroyable. Continuez après au sud, en allant sur l'hôtel de ville de Los Angeles. Là, c'était assez drôle. Quand j'y suis allé, il y avait le Baby Trump gonflable. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Oui.
C'est un collectif d'artistes qui est contre Trump. Et donc, ils se baladent un peu partout dans le monde avec ce Baby Trump. Donc, il y avait une petite manif devant. Et donc, c'est un espèce de bonhomme... on va dire façon Bibadum Chamallow, pour ceux qui voient la référence, assez avec des tout petits bras, pas de cou, enfin bon, il ressemble, c'est assez drôle. Et il y avait dans les trucs chelous qu'on voit dans les villes américaines comme ça, il y avait un gars qui était là avec un chien empaillé qui se promenait avec son chien empaillé sous le bras, qui était plein de poussière, tout dégueulasse, une patte cassée, et qui faisait des petites photos à droite à gauche. Enfin, c'est assez marrant parce que c'est des trucs comme ça qu'on... Enfin, ils sont pas... Enfin, ils sont bizarres. Ils sont marrants. Et un autre truc qui est pas très loin et que je conseille de faire, c'est le Grand Central Market, qui est un food court. C'est un peu le marché à manger de Rennes.
Ah ouais.
Façon Los Angeles.
Un peu bobo.
C'est ultra bobo, quoi. Ah ouais. C'est plein de bobos, hippies, hipsters.
Des galettes saucisses à visiter.
Il y en a pas trop, bizarrement. J'ai cherché.
Il y a un marché à prendre.
Ouais, c'est ça, il y a un créneau à faire prendre.
Ouais, ben ouais, je pense pour lancer un business, ça peut être pas mal.
Les galettes saucisses.
Il y a de tout, il y a de la street food thai, il y a de l'alimentation healthy, des cafés avec des goûts bizarres. Enfin, c'est beaucoup de néons. Enfin, c'est très joli, très sympa, très beaucoup de monde, beaucoup de tumulte, beaucoup d'odeurs aussi. Mais c'est vraiment à faire. C'est dans un bâtiment en plus qui est assez joli.
Travailleurs français, quand, avec le bruit et l'odeur, ils s'en sortent.
Je ne me prononcerai pas.
Vu les tarifs, il a du mal.
Et juste à côté, il y a le Bradbury Building, qui est un bâtiment historique qui est à l'intérieur. Il y a une espèce de grande cour intérieure avec beaucoup d'escaliers, beaucoup de ferronnerie, du bois. Alors comme ça vous parle peut-être pas trop, mais en fait c'est assez connu parce qu'on le voit dans pas mal de films, dans Blade Runner, dans The Artist, il y en a dans des séries policières américaines aussi. Et c'est depuis 96 le siège des affaires internes de la police de Los Angeles. Et c'est vraiment un bâtiment avec une petite atmosphère et très joli et assez singulier, quoi. Après, je vous conseille un endroit aussi très sympa et assez atypique, c'est The Last Bookstore. C'est une librairie. Alors comme ça, une librairie, ça fait pas rêver, mais c'est
qui lit
Je ne sais pas. En plus, il n'y a pas un pet d'écran là-bas. C'est ça qui est fou.
Les jeunes,
c'est fou, fou. Ils lisent encore sur du papier. Et c'est la plus grande librairie, en fait, de Californie. Elle est sur 2 étages. Et la particularité, enfin, une des particularités, c'est qu'il y a plein de bouquins et d'œuvres un peu uniques. Et le cadre est assez sympa. Je vous conseille d'aller au rayon des coins horreur. C'est un ancien coffre-fort avec une porte en ferraille d'un mètre, 1m90, avec des rouages tout en ferraille. Et c'est à l'intérieur de ce grand coffre-fort de cinéma. Enfin, il y a beaucoup de choses où quand on va en Californie, où on est projeté dans les films qu'on a vus auparavant. Il y a aussi des sculptures en livres. Par exemple, il y a un tunnel qui est fait en livre, donc on peut marcher au milieu d'un espèce de tube de fait en livre. C'est assez rigolo. Il y a un mur aussi qui est fait avec des livres, et dedans ils ont juste fait une ouverture ronde. C'est assez sympa, tout le monde s'y pose, met sa tête, et ça fait une super photo de profil. Derrière, il y a les bibliothèques et tous les bouquins qui font le mur. L'ambiance est assez relaxe. Il y a pas mal de musique qui est passée. Il y a tout un rayon vinyle hyper intéressant. Enfin, c'est vraiment pareil, un truc très bobo, très. Mais c'est vraiment joli et sympa à voir. Et en plus, alors c'est dans les particularités qu'il y a aussi, c'est que au premier étage, il y a des boutiques, et notamment il y a des boutiques de sorcières. Donc je vous conseille d'aller voir Liz Huster, qui est une sorcière qui donne des pierres, des conseils, des choses comme ça. Donc,
des filtres d'amour.
Des filtres d'amour, par exemple, ouais. Et
des poupées vaudou. Ah non, ça c'est plus en Louisiane.
Ah non, pas trop, ouais.
Des poupées vaudou.
Dans Gabriel Knight.
Et donc voilà, ce qui participe aussi à cette ambiance un peu particulière. Et pour ce petit tour du centre, pour finir, je vous conseillerais de prendre un des plus petits funiculaires du monde. Il fait 91 mètres. Il est juste à côté, c'est l'Angel Flight. Et alors, il est mignon parce qu'il est petit, il y a plein de gens qui attendent. Et il est passé, notamment dans La La Land, il y a une des scènes aussi de La La Land.
C'est une micro-scène qui doit durer 2 secondes.
C'est ça, ouais.
Mais ça, c'est un truc assez célèbre.
Et c'est ça qui est drôle quand on, enfin, j'en reparlerai après, mais quand on voyage en Californie, il y a plein d'endroits où on se dit, ah ouais, ça c'est cet endroit-là que j'ai vu, ah, il y a ça aussi. Alors, bizarrement, moi quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait beaucoup de circulation et j'ai vu personne s'arrêter et danser sur les bagnoles comme dans La La Land. Perso, j'étais un petit peu déçu. Mais
ouais,
bon.
Publicité mensongère.
Bah ouais, et du coup j'ai failli repartir, mais je me suis dit, bon, après 11 heures de vol. Donc voilà pour le premier quartier de Los Angeles. Ouais. Je développerai d'autres quartiers un peu plus tard.
Mais tu vas y retourner ou pas?
Ah, j'aimerais trop.
Ah ouais.
Ah ouais, j'aimerais bien. Au départ, quand je l'avais fait, j'ai dit, ouais, bon, je l'ai fait, je le referai pas forcément. Et là, ça commence à mûrir dans ma tête. Donc ouais, peut-être. Voilà pour cette fois, la suite la prochaine fois.
Il m'a demandé, je vais le mettre. Merci. On va passer, à la suite. Petite interlude, hein.
Bonjour Mickaël, je te suggère de passer en interlude.
Eh ben, une petite interlude, c'est à mon tour en plus. Un petit Jeopardy, parce que la dernière fois on avait bien joué au Jeopardy, on avait parlé d'un dossier avec
concentration.
Alors, je vous rappelle les règles. Les règles, bon.
C'est un truc qui arrive tous les 28 jours.
Questions à choix multiples, enfin des questions ouvertes. Hein. Et la première réponse est Trump. Ouais, ah bah vous avez le rembarras du choix, il y a un truc parlant sur toi.
Il a dit que qui a dit que l'invasion de la Turquie enfin des Kurdes que les tout Kurdes ça nous c'était pas très grave.
On avait nous avait pas aidé en Normandie quand même.
Par exemple, moi c'était en alors moi ma question était toute simple, c'est qui a encore fait de la merde.
Oui, ouais, effectivement.
Réponse suivante, attention elle est simple. South Park.
Ah. Qui a pas fait de la merde.
Qui arrive sur Netflix et Amazon, mais il manque des épisodes et c'est quand même galère et en fait on sait pas trop c'est la faute de qui.
Bonne question. Pardon. bien complète. Sûr.
Avec une sorte
réponse
de
suivante.
Bullshit
on débriefera de toute façon. Okay, ouais. Mais réponse suivante, l'homéopathie.
Qu'est-ce qui va être déremboursé en 2021 ?
2021, bonne réponse, bonne question. Les réponses suivantes sont le petit Spirou, Soda, Spirou et Fantasio.
Oh, qui était Philippe
Tom ? Quel auteur est mort, ouais. Quel auteur de bande dessinée ?
Moi j'avais le scénariste Philippe Tom est décédé. Pour quelle série de BD était-il connu ? J'avais fait en deux parties. Alors, prochaine réponse, le 31 octobre, enfin peut-être, on ne sait pas.
C'est quand le Brexit ?
Moi j'avais marqué quand aura lieu le Brexit, enfin je sais pas, j'y comprends plus rien. Bien sûr, prochaine réponse, 9 minutes.
Ah. Combien de temps dure 8 minutes plus 1 minute ?
Non, je n'accepte pas. Bah, si, 9 c'est... minutes, on l'a vu. Personne ne trouve ?
9 minutes, eh ben. Non.
Tom mais bon, on verra ça après. Prochaine réponse, 800 000 euros.
Combien coûte une montre pour qu'elle se fait voler ?
Ouais, c'est ça. Combien coûtait la montre qu'un homme d'affaires japonais s'est fait voler ? L'équivalent de toute une vie de travail. Voilà, voire plus. Et bien sûr, dernière réponse. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Chung and Kawai dit Blitzchung.
Qui s'est fait virer de la ligue Hearthstone et on a dû récupérer ses trucs ? Et que même que ça a déclenché pas mal de merde sur internet et que Blizzard est dans la merde.
Bonne réponse.
Wow.
Bonne question. Ouais, ouais, bonne question. Ouais, on va y revenir de toute façon. Bon, alors Trump, moi j'avais choisi son tweet qui disait « Si la Turquie fait quoi que ce soit dont j'estime dans ma grande et inégalable sagesse que cela dépasse les bornes, je détruirai et anéantirai complètement l'économie de la Turquie, entre parenthèses, et je l'ai déjà fait avant. » Voilà.
Ah oui, il a vraiment dit ça.
Il est bien.
Mais il a pas ouvert une Trump Tower en Ankara aussi ?
C'est fort possible.
Parce que
voilà.
Parce que pourquoi pas ?
Je t'avoue que comme je quitte rageusement toutes les deux minutes Twitter, je vois un tweet, je fais ah vous me cassez les.
Voilà. Tu devrais te filmer.
Angry German Kid en Twitter. South Park tiens.
Mais oui, South Park.
Il y a plusieurs trucs sur South Park en fait.
Ouais. Ouais, c'était compliqué.
Parce qu'effectivement il y avait la censure Netflix où Netflix ont dit oh c'est pas nous c'est le
CSA.
C'est
à cause de la diffusion.
C'était pas le CSA. C'était pas la faute de Netflix non plus. C'est que les ayants droit donc c'était TF1 il me semble quand ils ont acheté
les South épisodes.
Park, ils n'ont pas doublé les épisodes qu'ils considéraient comme étant problématiques.
Trop limite.
Ouais. Donc voilà. Et ils ne les ont pas achetés du coup, parce que ça ne sert à rien.
Donc en France, ces épisodes n'existent pas. Quoi.
C'est ça, voilà. Ils n'existent pas. Et sinon, par contre, le dernier épisode de South Park a fâché les Chinois. Aussi.
Ah ouais.
Ils sont très fâchés en ce moment.
Ouais, mais
les
gens commencent à se rendre compte que la Chine a la main mise un peu sur tout ce qui est culturel.
Bah, puisqu'on en parle, parlons de cette fameuse affaire Blizzard, ceux qui ont suivi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un joueur de Hearthstone classé mondial, un pro,
qui gagne
de l'argent, les concours. Il a des propos pro-démocratie pour
Hong Kong. En fait.
Du coup, il s'est fait bannir et censurer par Blizzard.
Le truc, c'est qu'il s'est fait... En fait, ils auraient pu lui dire « Oui, bon, quand même, la politique, ça n'a pas la place dans Hearthstone. On te bannit, je sais pas, 3 mois. Ouais, voilà, un truc comme ça, un petit claque sur les doigts. » Mais là, ils ont banni 4 ans. Et en plus, ils ont annulé ses gains. Oui. Et ils ont viré les deux streamers qui étaient les deux présentateurs qui étaient là aussi qui n'ont rien fait.
Qui n'ont rien demandé. Ils ont cautionné en étant là.
Voilà.
Il y a la NBA
ça ressemble un peu à une décision
touché.
De panique. Quoi.
La NBA aussi, ouais. le directeur, enfin, le président de l'équipe de Dallas. Alors là, je demande de l'aide parce que je n'ai pas le nom de l'équipe. Mais
Bobby Ewing.
qui a soutenu aussi les manifestations à Hong Kong et donc la NBA a dû s'excuser auprès de la
Chine.
Il y a eu aussi Apple qui on a demandé de d'enlever de l'Apple Store une application qui servait aux manifestants de se retrouver. C'est la fête.
Non, non, c'est pas ça. C'est pire. C'est qu'elle permettait aux manifestants de savoir où étaient les flics.
Ah, ah oui. Comme, comme les radars en France. Avec,
okay. C'est le coyote des flics, quoi.
Et pour en revenir à Blizzard, du coup, les joueurs, certains joueurs se vengent et ils ont mis un personnage d'Overwatch, Mei,
en figure de proue de la Révolution. Ouais. Alors que la, l'actrice qui fait la voix de Mei aux États-Unis est pro-Chine.
Ah oui.
Bah oui, mais enfin c'est facile d'être pro-Chine quand t'es aux États-Unis aussi. Mais donc du coup c'est ça fait un peu le truc. Et en fait ils essayent de voir comment Blizzard va réagir. Est-ce qu'ils vont supprimer Mei?
Ou est-ce qu'ils vont je pense qu'ils vont supprimer Mei parce qu'ils veulent pas prendre le risque d'être banni de. Enfin bref.
Bah on sait pas en fait. Rien. On sait si ça se trouve ils vont rien faire. Par contre, il y a des trucs qui sont pas mal, c'est que les il y a certaines personnes, enfin pas mal d'employés chez Blizzard qui sont pas du tout d'accord avec ça non plus et qu'on réagit aussi de leur côté en approuvant en fait en gros le la révolution quoi.
Et dernière chose, il y a plein de gens qui sont pas contents et qui essayent de supprimer leur compte Blizzard et ils arrivent pas parce que ils ont désactivé les moyens de supprimer le compte.
Voilà.
Grande histoire. Ouais. Et ça me rappelle qu'il y a à peu près 5 ans pour Hearthstone, je sais plus. J'avais créé un compte Blizzard qui m'a servi qu'une fois et comme je voulais pas mettre mon nom prénom, j'avais mis Robert Amptoire. Bon, voilà. Voilà. Et du coup, il y a 2 semaines, je me suis dit j'ai supprimé ce compte-là. Et en fait, c'est con, il demande une photocopie de la pièce d'identité pour supprimer le compte, c'est donc je ne peux pas.
Ah ouais.
Voilà. Quoi d'autre? Bon, une montre à 800 000 euros. Bon, bah voilà.
Ouais, qui en a pas perdu?
C'est ça.
On va à la plage.
Moi encore,
voilà,
la semaine dernière.
Tu sais, ils avaient volé une marionnette de Chirac, des guignols, et s'est retrouvé sur le bon coin. En plus. Ouais.
Ce monde est fou. Enfin, j'en peux plus. Bon, Philippe Thom est décédé.
Eh oui.
Voilà.
Et j'en ris pas du tout.
Oui. Le 31 octobre, peut-être, on sait pas, un Brexit, j'en sais rien. Mais ce qui m'intéresse, c'est les 9 minutes. Vous avez pas trouvé les 9 minutes?
Non.
Eh ben, c'est par rapport aux vieilles charrues.
Le temps, les places pour Céline.
Les places pour Céline Dion.
9 minutes, le record absolu des vieilles charrues. 55 000 places pour Céline Dion, la grande Céline. Qui va pouvoir
Céline.
Jouer. Ouais.
La grande Céline aux vieilles charrues, déjà.
Perso,
c'est une vieille charrue aux vieilles charrues, pour le coup.
Ouais, mais.
Ce qui est rigolo, c'est qu'en québécois, je crois que vieille charrue, ça veut dire.
Ça veut dire Céline.
Ça veut dire quand même un peu une fille de mauvaise vie et qui a bien vécu, quand même, pour le coup.
Ah merde.
Et Céline Dion, en chinois, ça veut dire paix et honneur, je crois. Ok.
Ah ouais. T'as un tatouage Céline Dion.
Non, Céline Dion, ça veut dire liberté pour Hong Kong, un truc comme ça, je sais plus.
Voilà pour ce petit jeu au pardi. Vous avez plutôt bien révisé l'actualité, ça va, tout va bien. Mais tu peux faire du bruit en ouvrant la bouteille. Est-ce que ça mousse? Non.
Ah,
oh, c'est la tout à fait safe.
Et sans transition, une chronique. Non, c'est pas ça. C'était ça.
La transition la plus longue du monde.
Dans l'épisode précédent. Avec monsieur l'ours,
oui.
À qui j'ai imposé de regarder Wild Wild Country.
Donc, regardez-le, parce que je pense que c'est très bien. Ouais, franchement, je vais le finir parce que c'est très intriguant et encore une fois, c'est très bien fait.
Qui vas-tu passer le relais?
Eh bien, je vais donc passer le relais à Yo.
Ah.
Complètement arbitrairement, tu es en face de moi. Je vais te proposer de regarder une série qui s'appelle Germain s'éteint.
Alors donc...
Comment
j'ai...
ça s'est passé?
Alors ça a été compliqué.
J'ai compris, c'est
ça
ce que j'ai compris.
Ça a été compliqué parce que Germain s'éteint, c'est une série québécoise qui a été créée par Ici Tout TV. Et donc comme on est en France, eh ben, c'est une série qui est géobloquée. Donc j'ai pu voir le pilote légalement.
Bah bravo pour le choix. Hein.
Voilà. Et puis après je suis restée un peu bloquée. En plus c'est une web série, donc c'est-à-dire que j'ai vu 9 minutes d'épisode.
C'est ça les 9 minutes.
Donc je vais je vais déjà pouvoir vous raconter un peu le début. Puis...
Comme quoi c'est québécois, Céline Dion, 9 minutes.
Voilà, exactement. Ouais,
c'est chargé à Hong Kong, je crois.
La première chose qui vous frappe, c'est que c'est québécois, donc c'est un accent québécois.
Québécois.
Et j'ai une affection particulière pour cet accent, je pense comme beaucoup de gens, parce que c'est doux, c'est chantant, et ça nous emmène loin. Donc Germain s'éteint, ça nous parle, comme son nom l'indique, de Germain, qui est un loser, Clairement, on va pas se mentir, c'est un loser. Il a 53 ans, il est chômeur, il est séparé de sa femme. Et c'est le père d'une ado de 16 ans qui, comme toutes les ados de 16 ans, on a rien à foutre de son père. Donc là, déjà, on est sur une base très classique, même si le personnage est un peu âgé. Sauf que Germain, il fait bugger un peu tout. L'imprimante fonctionne plus, il casse son écran de télé, l'airbag de sa voiture explose.
Ah, un mauvais lundi, quoi.
Un mauvais lundi, sauf que c'est sa vie qui est comme ça. Donc il se rend à l'hôpital, il passe un scanner, et là on lui découvre une maladie rare, grave, l'obsolescence programmée.
Ah.
Germain est destiné à s'éteindre. En fait, tout est dans le titre. Donc on va suivre Germain qui va s'éteindre. Donc sur le premier épisode, on s'arrête là. Alors
heureusement.
Monsieur l'ours m'a dépanné.
Le cousin canadien pour le
voilà.
coup, et
alors
pas américain.
Je pense que si vous avez un bon VPN,
nous a envoyé.
Ça marche bien, mais effectivement les VHS, voilà. Heureusement, j'ai gardé mon Betamax.
Alors, non,
voilà.
Mais pour info, effectivement, c'est un ami qui a vécu 3 ans au Canada et qui vient tout juste de rentrer en France, qui m'a dépanné. Ah. Voilà. Est-ce qu'il connaissait des petites combines inconnues en France, je ne sais pas.
Petits trucs.
Les doigts de fée.
Donc Germain, il a peu d'espoir pour s'en sortir, si ce n'est une greffe de cellules souches taïwanaises, un truc qui coûte 60 000 pièces. Voilà. Et 60 000 pièces, c'est beaucoup. Et en plus, c'est une thérapie expérimentale, on n'est même pas sûr qu'il va s'en sortir. Donc voilà, donc au cours de 6 épisodes, on va suivre Germain, qui va s'éteindre ou pas. C'est toute la question. Et les épisodes sont découpés selon les 5 étapes du deuil.
Oh,
le déni, la colère, la tristesse, le marchandage et l'acceptation. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, j'ai un peu grincé des dents au début parce que il y a un côté un peu Black Mirror.
Ah.
Et ça m'agace un peu quand on dit « Ah, regardez la technologie, là, les jeunes aujourd'hui sont sur leur portable, ils profitent plus de la vie. » Ça a tendance à me crisper un petit peu. En plus, il y a quelques longueurs au début. Et puis, il y a un moment où ça fonctionne. Et là, on va réussir à suivre Germain jusqu'à la fin. On va s'inquiéter pour lui. On va rire de sa situation avec lui ou contre lui. Il y a des bonnes idées. Clairement, l'idée de base, elle est quand même vachement marrante. Il y a d'autres idées qui sont un peu plus cringeantes, alors qui font grincer des dents. Voilà, comme donc sa fille qui cherche un nouveau père sur une sorte de Tinder pour les pères. Donc voilà, je trouvais ça un peu, ça m'a mise un peu mal à l'aise. Voilà. Et puis, c'est très bien joué. Ça, clairement, c'est vraiment très bien joué, très juste. On peut juste regretter la fin un peu attendue. Donc voilà. Donc si vous avez l'occasion de le trouver, honnêtement, ça va vous prendre 1 heure de votre temps. C'est assez sympa. Ça permet de découvrir aussi des choses différentes. Je dirais pas que c'est indispensable, mais c'est quand même un bon moment.
Est-ce qu'ils ont des expressions que t'as pas compris pendant le... Parce que des fois, les Québécois...
Oui, à un moment, elle parle de son cil. Elle parlait de son téléphone, son cellulaire.
D'accord.
Voilà, mais il n'y a pas... Enfin, je crois qu'on commence à s'habituer un peu.
C'est pas bloquant, ouais.
C'est pas bloquant, non. J'avais pas besoin de sous-titres. Qu'est-ce que t'en avais pensé, toi,
super.
À la base?
Mais en fait, moi, ce qui est drôle, c'est que je n'ai vu aussi que le premier épisode. Mais du
c'était
coup,
un piège.
Le but, c'était que tu me donnes envie de regarder, donc du coup, je vais regarder.
Ah bah parfait alors. Et alors pour la suite, vu que c'est un relais.
Alors moi, j'ai ramené une BD, voilà, qui est La Petite Mort de Davy Mourier.
Ah.
Voilà, et je vais faire comme toi, Monsieur Lourdes, je vais la passer à la personne en face de moi. Voilà.
C'est donc PM.
Je suis content parce que j'aurais jamais à faire cette chronique si tout le monde se passe ces trucs.
Ah,
en fait.
Tu le veux, tu sais quoi tu...
Non, j'ai rien dit. Non, j'ai le montage à faire.
Tu vas jamais la faire parce que t'es jamais devant nous.
Ce qui est bien, c'est...
Je veux bien le faire. Hein. Peu importe, fais ce que
j'aime
tu
bien le geste que tu fais en mettant tes mains sur le casque.
Comme ça, je vais t'engueuler encore plus. Voilà.
Bon, cette fois-ci, je te laisse le montage tranquille. Mais
bon, ça va. Merci.
Je laisse ton montage tranquille.
Ok. Laisse montage tranquille. Pour la prochaine fois, ce sera
La Petite Mort, le premier tome de Davy Mourier.
Très bien. Eh ben, merci.
Merci de t'être prêté au jeu.
Merci. Merci à toi, c'est cool de découvrir des choses.
Alors, tu as utilisé le mot cringeant.
Oui.
Alors, ça tombe bien parce qu'on va faire un petit moment vocabulaire que je vous propose tout de suite.
On fait une pause à l'interlude. 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 Oh yeah.
Oh yeah.
Merci. Alors, rendons à César ce qui est à César. Merci Cubertoy qui a... sa petite boîte à son, là, qui a fait ça très bien. Merci, Claire. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi ? Eh ben, je vous avais dit, je vous avais vaguement teasé dans notre DM commun sur Twitter que tout est parti d'un article de L.fr. Ou
Femme actuelle.
Femme actuelle. Ne
te cache pas derrière un
non,
truc
c'est un peu plus c'est classe. L.fr.
Tu vas nous dire que t'es allé chez le dentiste ou un truc comme ça ?
Non, là, je vous rassure. Alors, je retrouve ma chronique qui est là. Alors, un article de L.fr, je suis retombé là-dessus il n'y a pas longtemps. Et... je me suis dit, ce serait trop bête de ne pas en faire profiter les copains. Et on va se faire un petit cours de vocabulaire. Alors, puis à un moment, en fait, c'est la mode dans les magazines, tout ce qui est tendance, lifestyle, marketing, de prendre de quelque chose d'assez banal et de le transformer en mot en ING à la fin.
D'accord.
Voilà. Donc, et d'en faire un concept avant-gardiste parce qu'il faut le vendre, bien sûr. Et comme je sais qu'autour de la table, vous êtes à la pointe de la mode et des tendances, donc je vais vous donner le mot et vous allez me donner la définition. Ça vous va ?
Ça marche.
Alors, il y a trois catégories. Ça, on va essayer d'aller assez vite. Il y a une catégorie qui est nourriture, bien-être, lifestyle. Il y a une catégorie travail. Et il y a aussi une catégorie interminable qui est les rencontres en ligne. Voilà.
Ok. Oula.
Bon, on commence. Alors, on commence avec un très simple. Par exemple, si je vous dis le cocooning.
Bah, ouais. C'est rester chez soi et rien foutre.
Et rien foutre.
C'est Netflix
en
chill.
Rien foutre en... enfin,
en étant très confortable.
Lifestyle, tendance avec le bien-être, bien sûr.
Oui, voilà. Netflix and chill aussi, on appelle ça.
C'est ça. Et donc, un terme inventé en 87 déjà, en 87.
Ah ouais. Ah ouais.
Alors, bien sûr, vous n'avez pas pu échapper au souping. Qu'est-ce que le souping ?
Bah,
c'est le fait de faire
soupe.
Des soupes.
Voilà, en gros, c'est boire des soupes.
Première fois que j'entends ce mot.
Alors, bien sûr, manger de la soupe, mais ils insistent sur le côté détox. Donc, il faut faire des bons légumes faits maison. Mais en gros, ça reste faire un concept.
C'est pas du riz voire écarlate.
C'est juste de la soupe. Voilà.
C'est pas la soupe Liebig.
C'est pas du Liebig.
Petit Royco, là.
Ouais. J'en ai, si vous voulez, du Royco. On se fera un petit souping après. Bien sûr, il n'y a pas sans souping, sans juicing. Qu'est-ce que le juicing ?
C'est la même chose, mais au jus de fruits.
Oui, c'est boire des jus de fruits, tout à fait. Mais avec classe et tendance.
En levant le petit doigt.
Et bien sûr, justement, l'article de L en question, je vous rappelle ce titre de l'article qui est « Et si le souping était le juicing d'hiver ?»
Mais oui. Mais tu sais que tu peux faire du souping en été ?
Oui.
Avec du gazpacho.
Ah, mais
voilà.
Oui.
Alors, du salmorero.
Toi, t'es pigiste pour elle.fr.
Mais carrément, personne le savait. Mais
alors,
merci, mon secret.
Bien,
voilà.
Bien évidemment, on a le batch cooking.
Cooking. Ça, c'est le fait de cuisiner
en masse
pour,
pour toute la semaine.
Alors, c'est quelque chose de classe pour les magazines, mais en fait, c'est juste préparer ses repas de la semaine.
Bah ouais, oui, c'est ça. Ou manger les restes aussi.
Manger, oui. Alors, c'est essayer de faire des bases, par exemple, des bases de pâtes, des bases de. Puis après, tu fais tes mélanges dans la semaine. Bien sûr, il y a le plogging, celui-là, il est plus difficile. Et c'était à la mode, c'était
le plogging.
Le plogging. Plogging.
C'est le jogging, mais avec des plots.
Alors, il y a du jogging, mais c'est jogging en ramassant les déchets. Il y a eu ça.
Ah,
pas con.
Alors, bien sûr, maintenant, catégorie.
Et donc, tu voles le travail des agents de la voirie, quoi.
Voilà.
Super, merci, bravo.
Tu remplis des bouteilles de mégots, par exemple.
Et du coup, tu fais du fractionné, en fait. Tu t'arrêtes.
Tu t'arrêtes. Voilà. Tu ramasses 10 kilos de déchets.
Tu fais du fractionning.
Du fractionning, bien
sûr. Alors, bien sûr, le monde du travail n'est pas en reste, bien sûr. Qu'est-ce que le blurring ?
C'est quand tu pleures à ton travail.
Le blurring.
Sur ton bureau.
C'est quand tu sais pas tu dis pas exactement dans quoi tu travailles.
Non, c'est quand c'est l'effacement de la vie professionnelle et privée. C'est quand tu lis tes mails le week-end.
Et puis de
voilà,
de
quand tu mélanges un peu trop travail et boulot.
Tu brouilles les lignes.
Ouais, entre ta vie privée, ta vie professionnelle et bien sûr le free sitting quand t'arrives. Qu'est-ce que le free sitting ?
Mais si tu t'assois où tu veux.
Tu n'as pas de
bureau fixe.
Voilà, pas avoir de place attitrée, s'asseoir n'importe où pour réduire les coûts comme d'habitude. Mais bon, du coup, le problème dans les entreprises, c'est que plus personne se connaît. Voilà. Le slashing.
C'est le fait d'avoir plusieurs activités.
Voilà, c'est ça.
C'est avoir deux boulots parce
en gros, c'est être précaire.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Et bien sûr, plus classe.
La grande tendance c'était au coworking.
C'est de
co-working ou
co-working. C'est tu fais des réunions en marchant.
Voilà, donc c'est au lieu de faire une réunion, c'est que tu vas marcher avec tes collègues. Voilà.
Je pensais que tu faisais des.
C'est sponsorisé par mangerbouger.fr.
Mais ça fait des réunions quand même, en fait.
Bien sûr,
qu'il y a pas les cacahuètes.
Ouais, il suffit de réinventer l'approche classique en leur remplaçant ça par du walk and talk.
Ouais, mais alors comment tu fais pour ta présentation PowerPoint? T'as le truc à côté. Alors mon slide ici.
Le tableau blanc. Alors bien sûr, là, on va aller. Dans les rencontres en ligne, et là, il y a de quoi faire. Le stalking, il est facile.
Bah c'est quand tu suis quelqu'un que tu devrais pas.
Ça, c'est
de manière un petit peu cringy.
Surveiller quelqu'un, voilà. Le phishing.
C'est aller à la pêche.
Ouais.
dans les rencontres.
Ouais.
C'est quand tu mets une fausse photo de toi, genre
Non, c'est le fait d'envoyer un grand nombre de messages espérant que quelqu'un réponde.
Tu balances un filet et puis...
C'est pas très glorieux, mais il n'y a rien de glorieux dans tout ce que je vais vous dire.
Avant, hein, je te rassure.
Alors bien sûr, après, nous avons le Gatsbying.
C'est faire des grandes soirées et t'y es même pas.
Non, c'est pas exactement ça, mais à votre avis. Alors,
je cherche à raconter.
C'est un peu ça. C'est enjoliver la réalité. Ouais, c'est de, par exemple, poster une vidéo, une photo, dans le but que la personne que vous désirez l'ait vue. Mais vraiment pour se mettre à son avantage, quoi. Bien sûr, c'est en référence à Gatsby le Magnifique, hein, comme vous savez, bien sûr. Alors, attention, le breadcrumbing. Excellent, le breadcrumbing, moi j'adore.
C'est faire des miettes de pain.
C'est un peu ça.
C'est laisser des pistes pour te retrouver, mais
tu mets des petites traces un peu partout.
C'est des petites traces pour attirer l'attention. Un petit like par-ci, par-là, un petit message, mais léger, quoi.
Tu unfollow.
Ouais, un peu comme certains sur Twitter. Un peu comme ça.
Léger, quoi, discret.
Un peu comme certaines boîtes de podcast sur Twitter. Voilà.
Sur le thème des rencontres, dire laisser des petites traces.
Oui. Ah, ça dépend.
Mais qui a utilisé tout mon papier toilette?
Avec le doigt sur l'écran, bien sûr. Alors, bien sûr, le ghosting.
C'est ne pas répondre, ne pas répondre aux messages.
C'est quand tu
ignores complètement quelqu'un. Plus compliqué, l'orbiting.
C'est quand tu tournes autour de quelqu'un.
C'est comme le ghosting, mais tu restes en orbite, c'est-à-dire que tu mélanges le stalking.
Tu mélanges le stalking et le ghosting.
Alors bien sûr, il y a le cricketing aussi. C'est quoi le cricketing?
Tu cliques à toi.
Tu te mets derrière les personnes.
Ça, c'est un truc méchant. C'est quand. C'est voir les messages de quelqu'un, mais attendre plusieurs jours avant d'y répondre. Et bien sûr, ce petit kink, le shave the king.
Le shave the king.
Shave the king.
Shave the king.
Ouais.
C'est le canard.
Raser le roi, quoi.
C'est le fétichisme des barbes, en gros. Être attiré par les barbes. Alors, bien sûr, j'en ai encore 15, mais je vais pas tous les faire. Alors, j'aurais pu parler, par exemple, du flexting, qui est le fait de mentir. Du mosting, donc qui est une variante du ghosting, mais avec un peu de prolling. Il y a le caspering. Donc, le caspering, c'est un ghosting poli, respectueux. Après, il y a aussi le haunting, mais qui a pas confondu le breadcrumbing, c'est important. Et, vous savez, le zombieing, qui est un mélange de ghosting et de breadcrumbing. Vous avez le marleying, donc je viens de le dire, c'est comme du zombieing, donc mélange de ghosting et de breadcrumbing, mais c'est uniquement pendant les fêtes de fin d'année. Il faut pas confondre. Il faut pas confondre ça avec le cuffing.
Ça s'appelle comment le truc de fin d'année?
Marleying. Arrêtez-moi, j'en peux plus.
À cause du film Marley et moi, hein, c'est ça?
Oui, c'est sur le chien, c'est ça?
Oui.
Alors, bien sûr, il y a le serendipity dating et le breezing.
Oh, oui.
C'est l'inverse du breezing. C'est un peu son contraire. Il y a bien sûr le submarining, c'est un peu dans la même veine que le zombieing, mais il y a quand même du stalking dans l'histoire. Il y a le faux-being, ça ressemble à du gatsbying, mais il y a aussi du cushioning et il y a un peu de flexting pour le côté mensonge. Il y a le fire-doring. Alors, attention, le fire-doring, parce que ça commence en pocketing, ça finit en stashing, donc faites très attention.
Sans rapport à Ring of Fire de Johnny Cash, ça, par contre.
Bien sûr, ne mélangez pas le cushioning et le micro-cheating, c'est pas pareil. Et n'oubliez pas que le cookie jarring, ça peut mener au benching. Voilà. C'est bon, okay. Tout est clair pour vous.
C'est hyper. Merci Pépé.
Voilà,
franchement,
donc, vous avez toutes les clés maintenant pour aller
pas
sur Tinder.
Je communiquer jusqu'à maintenant sans ça, mais
moi je me sens équipé.
Alors, ce qui est super en fait, c'est qu'ils inventent des mots pour des trucs qui existent déjà.
Voilà.
En fait, c'est.
Ouais, tu mais il faut le faire de manière classe
ça de moins, si
et moderne.
Voilà.
Et bon. Sur son téléphone.
Bah, donc j'ai hâte que l'émission finisse pour aller, bien sûr,
mettre en pratique, bien sûr.
Mettre en pratique mon cookie jarring. Voilà, donc cookie jarring, qui veut dire pot à cookies. Hein.
Oui,
donc,
tout à fait.
Ce que ça peut être.
C'est mettre des cookies
le
pot.
Non, c'est avoir plein de rendez-vous au cas où ça n'aboutit à rien.
Ah oui, d'accord.
Voilà. C'est, voilà. Et le benching, attention, le benching, c'est
ouais,
pas
en, en français, on dit avoir plusieurs cordes à son arc.
C'est un petit peu, ouais. Ah. Cordes à son arcing.
À son arcing.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Merci, Pépé.
Ouais, merci, plus, hein. On va passer à la suite. Oh, une petite culture G. Allez.
Ah.
Bonsoir. Alors, effectivement, ce retour de la chronique hashtag culture G que j'avais malencontreusement appelé en cours de route hashtag culture pop la dernière fois.
Oui,
pourquoi
au montage,
pas.
Je m'en suis aperçu.
Donc, c'est le fait de trouver quelque chose pour un petit peu briller en société, alors qu'en vrai, on s'en fout un petit peu. Mais moi, ça me fait marrer. Et en ce moment, j'ai entendu, c'est un petit peu ça, ouais, une expression et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en vrai, en l'utilisant, je me disais, mais je ne comprends pas. Vous allez le savoir assez vite, mais je vais quand même vous poser une première question d'abord.
Un petit peu de ludique.
Pendant que je me bats avec les...
Du ludiking.
J'ai deux questions pour vous, pour commencer. Qui aime autour de la table les figues?
Moi j'adore ça. Je sais,
peut-être lever la main que
les,
je vois.
Les figurines
pas. Non, les figues, le fruit.
Ah, comme les figues au lune, mais avant qu'ils soient avec
les fruits de l'enfer. Ça.
Ouais, c'est dégueulasse.
Comme les pruneaux, c'est pas bon.
D'accord, très bien.
J'avais lu que c'était censé être ça, le fruit défendu, que c'était une mauvaise traduction de la Bible. Alors que c'était figue.
Ça serait plus logique en plus, vu la région géographique. Et qui aime ou aimerait du coup le raisin?
Ah oui,
c'est
vrai que tu veux dire.
Sec.
Ah, c'est le raisin, c'est bon. Surtout, surtout en.
C'est assez incroyable. J'ai pas levé la main, moi j'aime les deux. Surtout en juicing. Ouais, tu peux aussi en rajouter sec, du coup, dans ton souping.
Ouais, pas trop sec.
Le raisining, c'est une pratique très pure. Non, je vais vous parler effectivement de, du coup, l'expression mi-figue, mi-raisin. Parce que, en vrai, je l'utilise de temps en temps et à chaque fois, personnellement, j'aime les figues et j'aime les raisins. Et je me dis, mais du coup, quand je dis mi-figue, mi-raisin, qu'est-ce que ça implique finalement? Qui est la figue du raisin? Ou en tout cas, qui est le bon côté du mauvais côté? Alors, assez étonnamment, du coup, autour de cette table, finalement, l'expression trouve son sens puisque, a priori, on est plutôt.
50-50.
Bah non, on est plutôt, effectivement, quand même, oui, alors.
Plutôt raisin que
figue. Est-ce que du coup vous auriez éventuellement une explication pour cette expression, une origine?
Ouais,
laissez libre cours à votre imagination.
Les marchands de l'ancien temps, ils mélangeaient des figues et des raisins dans des pots pour
pas
faire
mal,
du troc.
Pas mal.
Moi,
pas
j'ai
mal.
Pas d'explication, mais la première fois que j'ai découvert cette expression, c'était qu'elle avait été mal prononcée par dans une BD.
Ouais.
Il y avait un mec qui disait « Oh, ce type-là, il a un air missile microbien. » Et après « Mi figue, mi raisin !» Et je comprenais pas, en fait. Et donc, mon père m'a expliqué, mais il m'a pas expliqué.
D'accord.
C'est
okay.
Le jus des deux fruits qui se mélangerait par les marchands ou... Non.
Non, il n'y a parce pas de, d'histoire de juicing.
Une figue valait deux raisins.
Non, c'est moins compliqué que ça, mais... T'es, fin,
les mois de
saison
de récolte.
Non plus...
C'est pas...
Non, en tout cas, c'est un petit peu autour de ces questions de effectivement marchand entre guillemets. Enfin, ça, c'est une des explications, mais elle est réfutée cette explication aujourd'hui. Ouais. On la traitera à la fin. Ouais. L'explication, effectivement, l'explication a priori qui fait foi aujourd'hui pour du coup la connaître, il faut remonter. Du coup, au 14e siècle. Et parce que, en fait, à cette époque-là, les figues et les raisins, bah, tout simplement, c'était les fruits secs les plus consommés au moment du carême. Donc, on revient à quelque chose d'assez religieux. On commence à ce moment-là à voir, du coup, apparaître des expressions qui utilisent les figues et les raisins. Et il faut savoir qu'à cette période-là, d'ailleurs, on dit plutôt moitié figue et moitié raisin. Pour dire soit, comme l'expression veut le dire, quelque chose de mêlé de bon et de mauvais, ou alors tout simplement quelque chose qui est à moitié quelque chose et à moitié autre. Il n'y a pas vraiment de notion de bien ou de mal avec cette expression, c'est juste que les deux fruits secs notamment occupent une place assez importante dans du coup la manière de se restaurer au moment du carême. Donc du coup voilà, on a un début d'explication avec cette origine il faut du coup aller deux siècles plus tard pour effectivement voir que elle commence à prendre cette notion de moitié forcée, moitié consentant, en tout cas moitié bonne, moitié mauvaise, et tout simplement avec le fait que du coup la figue, et c'est une caractéristique physique du coup de la figue qui donne ce truc là, avait à un moment donné eu le sens d'une crotte, d'une fiente en fait, de par sa forme. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait une expression qui disait « figue de chat et mare d'argent seraient toutes un au jugement ». Alors, j'ai pas creusé cette expression, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'elle veut dire, mais en tout cas, à un moment donné, pour parler de fiente de chat, on parlait de figue de chat. Et du coup, petit à petit, cette expression, ces deux expressions se sont mêlées et ont effectivement donné l'expression mi-figue, la moitié est devenue mi, mi-figue, mi-raisin, pour désigner le fait que quelque chose est moins, ni bien ni mal, ou qu'en tout cas il y a une différence. Et donc, a priori, effectivement, dans les deux, c'est la figue qui porte le mauvais rôle. Ah. Et oui,
parce bizarrement. Que l'alcool de figue, c'est dégueulasse aussi.
Oh. En alcool, c'est bon.
Non.
Et du coup, effectivement, t'étais pas très loin, parce que l'explication qui a longtemps perduré, mais qui maintenant est réfutée par les historiens des expressions qu'on s'en fout un peu, c'est que à un moment donné, en effet, on pensait que c'était lié aux Corinthiens, qui de temps en temps, en fait, quand ils livraient des raisins secs à Venise, y mélangeaient par inadvertance, je fais le truc avec les doigts.
Mettez de l'eau dans la bière.
Mettez des figues, puisqu'elles étaient moins chères et elles étaient plus lourdes. Donc du coup, ça permettait de gruger un petit peu les clients et de se faire un petit peu plus d'argent. Bon, a priori, ce n'est pas la vraie explication au final. On parle plutôt des mets qui étaient consommés au carême. Voilà, donc demain, pareil, si quelqu'un vous dit « Ah, je sais pas, je suis plutôt mi-figue, mi-raisin », vous pourrez lui sortir de manière très pédante et complètement inutile l'explication, c'est ça, de ces expressions. Merci de votre écoute.
Merci. Une dernière interlude, parce que quand c'est bon...
Il n'y en a jamais assez.
On m'avait promis une émission complète, et là, on me dit que c'est l'interlude. Cochon qui s'en dédie, Choutane.
Oui. Donc.
Cochon qui s'en dédie.
Cochon qui s'en dédie.
Référence à Metal Gear Solid.
À Metal Gear Solid, tout à fait. Donc, mon interlude s'appelle Canis Canem Edit. Alors, on va faire fonctionner nos petites racines latines et voir si vous arrivez à retrouver le nom de ces œuvres culturelles une fois traduites en latin. Pour rendre les choses encore plus compliquées, je vais les chanter en façon grégorianes. Par exemple,
Marmitans.
Attends.
Wow.
Marmitans.
Mal. J'ai pas fait latin. Malumabitans.
C'est pas la bi qui fait le.
Alors c'est une œuvre culturelle. Ah oui, donc c'est souvent du. Bon, il y a beaucoup de jeux vidéo dans le tas, mais il y a pas que ça.
Ah, c'est dommage. Film, parce que moi j'ai fait du latin.
Il répète une dernière fois.
Malumabitans.
Habitance, habiter quelque part.
Ouais.
Voilà, mais Malum.
Mauvais habitat.
Mauvais habitant, donc, si tu traduis en anglais.
Bad inhabitants, bad people.
C'est Resident Evil.
Ah, ah oui, c'est vrai qu'en anglais, il faut inverser.
Voilà. Alors.
T'es où sexe?
Non. Or, sexe, c'est pas sexe.
Ouais, ça veut dire chiffre. Final Fantasy.
Erike Arcus.
Cheval.
Erike.
Ah, gna 6.
Alors non, c'est Rainbow Six. Arc-en-ciel 6, quoi, okay. En gros, voilà.
Aranea Hominis.
Aranea Hominis. Tu chantes super bien. Ouais. Le grégorien.
Hominus. Hominus.
Refais-le.
Aranea Hominis.
Oh putain, mais c'est trop dur. Jeux vidéo, tu vois.
Là, c'est assez global. Hein. C'est un personnage très connu.
Hominis, donc.
C'est un...
L'homme.
Un homme. Voilà. Aranea.
Spider-Man.
Spider-Man, bravo, ouais, tout joli, à fait.
Dominus Anulorum.
Anulorum.
Donc. Anulo. Dominus.
L'ordre des anneaux. Seigneur des anneaux.
Le seigneur des anneaux, bravo.
L'ordre des anneaux.
Attention, là c'est plus compliqué.
Ergastulis et Dragones.
Legends of Dragon.
Alors effectivement, il y a bien dragon, mais
ouais.
Ergastulis.
Panzer Dragon.
Et Dragones. Donc et, c'est et dragon.
Donjon et dragon.
Donjon et dragon.
Stella Bellum.
Belle étoile.
Non. Bellum. Stella. Bellum, c'est pas belle. Ah. C'est Cassus Belli, c'est.
Guerre.
Donc, Bellum.
La guerre des étoiles, Star Wars.
La guerre des étoiles, voilà.
Ouais, je l'ai.
Ça y est, ça y est.
Attention, celui-là, il est super dur.
Ignotumque.
Deux points.
Fatum Draculorum.
Donc, c'est un jeu sur PS3.
Dragon Age Inquisition.
Non.
Sur PS3.
Il y a quelque chose de draconique dedans.
Il y a. Oui, alors. Oui, parce que là, en fait, j'ai traduit, mais normalement, il aurait pas dû être traduit parce que c'est un nom propre.
Ah.
Mais qui ressemble à...
Ignotumque Fatum Draculorum.
Fatum, Hands of Fate, le destin.
Ouais. Ouais, alors en plus, c'est une traduction très approximative.
Ah ouais.
Alors, ignotumque, donc ça veut... Donc, igno, donc de ignorance, donc quelque ouais. chose qu'on ne connaît pas. Donc, ignotumque...
Unknown.
Uncharted.
Uncharted.
Drake's fortune.
Drake's... Ah ouais. Voilà,
la fortune. Enfin, donc le destin de Drake.
Sepulchrum praedo.
Et une sorte de tombe.
C'est tombe.
Et praedo.
Tomb Raider.
Tomb Raider, oh voilà, tout à fait. Donc voleur de tombe, hein, directement.
C'est tellement évident.
Alors là, c'est une chanson. Donc je vais la chanter.
Ne quoi s'aimer, ne si.
Laissez-moi les.
Si c'est ça.
Ah laissez-moi danser. Oui.
Non.
Non.
Les délits.
Laissez-moi.
Mais oui, c'est ça, tout à fait. C'est ne partez pas sans moi de Céline Dion.
Céline.
C'est des Céline.
Qu'on embrasse si elle nous écoute.
Une autre chanson.
Domus ad orientem solem.
Domus ad orientem.
Donc Domus.
Le Seigneur.
Non.
Non,
c'était pas ça.
Non, c'est Dominus, le Seigneur. Donc là, c'est Domus, c'est la maison, tout à fait. Ad orientem solem.
Orienté au sud. Ah, c'est.
La colline des dieux.
Ah, c'est une maison bleue.
Non,
c'est une chanson. C'est une chanson.
C'est une chanson qui a été reprise par JH en Les Portes du Pénitencier. Donc c'est The House of the Rising Sun.
Ah, bah oui.
Donc la maison orientée vers le soleil, en fait.
Vers le sud.
Et pour finir.
Quad.
Qui, quoi?
Bah, c'est un film, c'est un bouquin.
Ah oui.
Ça. C'est ça, tout à fait, voilà.
Bravo.
Merci.
Bravo.
C'était pas facile.
C'était joliment exécuté.
On arrive au bout du conducteur et on a même un peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce
que tu veux garder pour la suite?
Peut le faire, c'est
un
peu
dans ta tête.
On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire.
Allez, c'est bien parce qu'on a le temps
ça
et que ça va me rajouter deux heures
libre,
de
mais tu peux entièrement couper
ça,
cette chronique si tu veux.
Prenez la parole, mon vieux.
Ça serait drôle de faire un. Un mix des deux, du coup.
Je vais le faire. Allez, hop, encore du montage.
Exactement. Nouvelle, effectivement, chronique. Là, ça va être vraiment plus en discussion. Et du coup, j'aurais besoin d'un petit peu d'imagerie pour éviter de la vidéo, mais sur l'écran. Mais retour, effectivement, de la petite chronique derrière le miroir noir. Je voulais vous parler tout simplement d'une marque américaine qui s'appelle Boston Dynamics. On en parlait juste avant l'émission et on se disait hey, mais c'est pas un truc de fringe ce truc là et en effet c'est un peu comme ça que je suis venu à connaître cette marque parce que dans Fringe série de notamment produite par Bad Robots, J.J. Abrams, etc. On assiste à une société du coup de je ne sais plus quelle ville américaine, mais qui du coup produit des choses technologiques qui s'appellent Massive Dynamics.
Et c'est à Boston.
Ben, je crois que c'est à Boston aussi. Et du coup, c'est pour ça que le lien avec Boston Dynamics était assez
évident peut-être maintenant.
Était assez incroyable. Et pourquoi c'est assez fou de suivre ce que fait Boston Dynamics? Parce que eux, ils se sont positionnés en fait du coup sur le développement de la robotique. Là où certains se développent dans l'intelligence artificielle, par exemple, avoir des réponses robotiques de plus en plus humaines, logiques, etc. Eux, ils se sont dit, il faut qu'on arrive à faire des robots physiques.
On va mourir.
Qui sont les plus fonctionnels possibles, puisqu'ils ont de gros contrats avec l'armée américaine, clairement. Et donc, ils ont développé plusieurs robots depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Les trois plus connus, c'est Big Dog, donc qui est un robot de transport de matériel, qui est donc un quadrupède assez massif, que pour le coup, comme son nom l'indique, Big Dog, c'est à peu près comme un gros chien, peut-être un Saint-Bernard, un truc comme ça, qui du coup est capable de courir à une vitesse assez importante et qui est surtout capable de se déplacer sur des terrains très accidentés.
Transporter
du matériel assez lourd, etc. Ah. Effectivement, ouais. Bon, c'était sympa, mais c'était pas spécialement ultra impressionnant. Il y avait une petite fibre de c'est comme le futur, mais voilà, en soi, c'est un transport de matériel évolué. Ensuite, ils ont beaucoup communiqué sur Spot, qui est le robot qu'on voit actuellement en vidéo, qui est là, du coup, de la taille d'un petit chien, et qui est un quadrupède qui possède... un labrador, qu'on va dire, et qui possède du coup un bras articulé à l'endroit de sa tête avec une pince, et qui est capable de saisir un certain nombre du coup d'objets assez facilement. Ce qui est très impressionnant avec Spot, c'est que comme il est petit, il est capable de se faufiler un peu partout dans les maisons, dans les intérieurs, et lui aussi du coup il se déplace d'une manière très naturelle, puisque il compense énormément. Il y a tout un truc d'inertie qui est presque magique à voir en vrai, puisque du coup il est vraiment capable d'ajuster sa démarche au parcours qu'il est en train de faire, à l'extérieur, à l'intérieur, etc. L'idée, c'est d'en faire un robot un peu de support pour des tâches
clairement, disons-le.
Je vois pas pourquoi tu dis ça, écoute.
Et quand ils vont se rebeller, on va être dans la merde.
Et l'exemple peut-être le plus je trouve en tout cas bluffant, c'est là on voit un autre robot dont je ne sais pas le nom, mais qui est aussi sur deux roues et qui arrive à tenir son équilibre, c'est un truc de fou, mais c'est le robot qui est je trouve le plus incroyable, c'est Atlas, qui est un robot humanoïde et qui du coup est capable, qui se déplace vraiment maintenant aujourd'hui d'une manière extrêmement stable sur ses deux jambes, qui est capable de faire quasiment du parcours. En tout cas, la dernière vidéo qui est sortie très récemment d'Atlas le montre en train de réaliser des backflips et des trucs comme ça, de marcher dans la nature, dans des environnements neigeux, etc. Donc le but là, clairement, de ce qu'ils sont en train de faire sur ce robot humanoïde, c'est de le rendre le plus stable possible et le faire le plus utilisable en tout terrain. Et il fait des trucs assez incroyables. Et outre la performance technique et effectivement la projection qu'on peut se faire d'avoir demain des robots qui puissent aider les êtres humains dans différentes tâches, ce que je trouve assez incroyable, c'est que ça met en scène, et d'ailleurs récemment il y a eu une vidéo parodique qui mettait en scène ce truc là, ça met en scène la future possible maltraitance qu'on peut faire à des robots, puisque forcément pour tester la résistance et l'équipe de leur machine, certains tests se font qu'ils les poussent avec des bâtons, ils les font tomber pour voir s'il est capable de se relever. Et franchement, il y a de l'empathie qui se dégage de ça, et on se dit merde, c'est quand même super dur de faire ça, alors qu'en vrai il n'y a même pas vraiment d'intelligence artificielle dans ces robots là ils sont assez programmés de manière basique, c'est juste que techniquement ils sont très évolués mécaniquement, et du coup je trouve que assez bluffant, et je trouve qu'en plus ça pose des questions sur l'avenir de la robotique et du traitement qu'on fera à ces machines là parce que encore une fois, et je terminerai peut-être là-dessus, mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'on s'efforce de créer des robots qui sont forme animale ou forme humanoïde, quoi. Et donc qui forcément du coup provoquent chez nous des ressentis très particuliers. Et je ferai le rapprochement avec une phrase que j'ai trouvée géniale dans Battlestar Galactica, Pour ceux qui connaissent la série, c'est une série qui met en scène des robots humanoïdes, et il y a un des robots qui dit à un moment donné qu'il déteste en fait ses créateurs parce que ils l'ont enfermé dans un corps humanoïde, alors qu'il pourrait être ce qu'il veut en fait. Il pourrait être en tant que robot, il pourrait avoir 18 bras, enfin être doté de capacités diverses et multiples, alors que là il est enfermé dans un corps d'homme ultra réaliste. Et du coup, je trouve qu'il y a tout un truc assez intéressant de cette évolution là qu'on essaye de faire sur la mécanique du robot anthropomorphe et de ce que ça peut donner dans le futur. On voit un big dog qui se prend un énorme coup de pied, on se dit mais c'est pas possible, laissez-le tranquille, alors que c'est juste de la mécanique, hein, voilà, faut
MGS se calmer. 5.
Ouais, très clairement. 4. Et là il est en train de paniquer à fond. Donc voilà, c'était. Je vous invite à aller voir les différentes vidéos si vous ne connaissez pas de Boston Dynamics. Je trouve que c'est assez impressionnant aujourd'hui ce qu'on arrive à faire. Enfin, clairement, je trouve que c'est le futur et c'est pas trop grand public ce genre de choses. Quand on traîne sur Twitter et qu'on connaît un peu des gens dans l'univers de la geekerie, on en a entendu parler, mais sinon, je pense que les gens sont assez peu connaisseurs de ce qui se développe en robotique, en exosquelette, en intelligence artificielle, etc. Donc, je voulais faire un petit focus là-dessus.
Voilà.
Cool. Alors, il y a un papier dans le dernier Canard PC qui parle justement de l'empathie qu'on peut avoir avec les robots.
Ouais.
Detroit. Et...
Hein ?
Comme dans Detroit.
Ouais, non, c'est même pas ça, c'est que, en fait, YouTube, l'algorithme de YouTube a interdit des vidéos de robots qui se font massacrer, parce que ça ressemble trop à, ça ressemble à de la violence, voilà. Et en fait, il y avait quelque chose, c'est que l'humain a tendance à développer de l'empathie pour un peu n'importe quoi, et même pas forcément quelque chose qui lui ressemble ou quoi que ce soit. Moi, par exemple, j'ai un Roomba. Ben, quand il est coincé quelque part, je suis tout triste. Je dis ah, non, allez, vas-y.
C'est un phénomène psychologique qui fait que justement, c'est pour éviter qu'on se bouffe les uns les autres.
C'est ça, ouais. C'est.
On peut développer de l'empathie pour n'importe quoi.
Et ça m'avait fait penser aussi à une petite image, un petit texte que j'avais lu sur Internet. Hein, donc paye ta source en bois, comme on dit, mais. Où justement dans la confédération, dans un futur très lointain, où une espèce de confédération de planètes une confédération galactique arrive et ils sont là. Bon, alors prenez un humain avec vous tout le temps, parce que bon, déjà ils peuvent courir super loin, super vite, ils se blessent mais c'est pas grave, ils sont copains avec n'importe quoi, il y a plein de trucs que les humains savent faire. C'était hyper positif en fait, parce que bon, on est toujours en train de se morfondre sur nous-mêmes, mais l'humain est capable de faire des choses vraiment cool. Et après je repensais en me disant mais oui, mais c'est vrai que même ne serait-ce qu'une peluche, on aime ça quoi, enfin on lui prête des
sentiments,
tu vois. Calvin et Hobbes, c'est très vrai quoi au final, donc
comme c'est... quand on évite de dire des insultes à Siri au bout d'un moment, parce
que, ouais, parce que quand même,
c'est pas gentil, hein,
c'est pas gentil,
surtout qu'il y a quelqu'un qui nous écoute après.
Et chez Boston Dynamics, ils ont des mouvements très humains, mais au Japon il y a plein de robots qui ont des faciès et des mimiques ou même une morphologie très humaine, ce qui est encore plus perturbant.
Ouais. Et je trouve qu'on est vraiment à ce moment où il y a différentes parties de tout ça qui est en train de se perfectionner, mais de manière un peu séparée, des intelligences artificielles un peu évoluées, des corps assez évolués, des visages très réalistes. Et j'attends le moment où il y a une boîte qui va nous sortir le package. Là, on pourra commencer à dire que c'est le jugement dernier, qu'on va tous mourir. On n'y est pas encore.
Ce que j'aime bien avec le Boston Dynamics, c'est qu'ils évitent la Uncanny Valley, en fait, en faisant des robots humanoïdes, mais...
Sans visage.
Ils n'ont pas de tête, et ils sont pas... Ils n'ont pas de caractéristiques humaines vraiment. Leurs membres sont un peu à l'envers, etc. Donc on peut pas vraiment, on peut pas avoir de sentiment de dégoût. En fait, au contraire, on va plutôt avoir un rapprochement. C'est quoi ce petit machin mal formé là ? Il faut qu'on soit copains avec. Et les vidéos parodiques où le robot se rebiffe, il sort un flingue et tout, sont tellement drôles.
Comme ce bouquin où c'est la guerre dans le futur entre les robots et les humains. Et les robots ont trouvé l'arme imparable pour attirer les humains. Et ils font des robots bébés en forme d'humain en bombe, comme ça les humains arrivent, un bébé au milieu du champ de bataille.
Ouais, c'est dans Screamers.
Voilà. Ouais, voilà, c'est dans Screamers. Voilà, on va mourir.
Il y a une nouvelle de Titanic,
pour terminer,
qui s'appelle Nouveau Modèle, je crois.
C'est possible, ouais. C'est peut-être là, alors.
Il y a eu un film.
Oui, il y a eu un film, ouais. Screamers, ouais, qui est pas mal, mais en fait, il a mal vieilli.
Et moi, je me rappelle Virus. Ça, c'était de la merde. Voilà.
Excellente conclusion.
Voilà. Eh ben, on a fait un bon tour.
Ouais.
Bravo tout le monde.
Cool. Merci.
Allez, on fait un débrief. C'est pas
Allez, on refait le match. Ah, mais Eugène Saccomano est mort.
Ah, mais oui.
Putain, ah, merde. On peut plus refaire le
Terrible.
Match.
Terrible.
Bon, bah, merci à tous. Eh ben, encore merci une Pépé. Émission ben, de bouclée. Enfin, je dis encore une émission, c'est que la deuxième. Enfin, la première, vu que la première était le 0-0.
Ouais.
On va pas faire de débrief parce que. Bon,
parce que c'était bien.
alors, que dire l'émission sera disponible sur le podcloud de l'émission. Et bien sûr, sur le Twitter de l'émission.
Mais voilà.
Et oui.
Et la prochaine fois, bah, je ne sais pas, peut-être le mois prochain. Alors, novembre, ça a été un petit peu compliqué pour moi, mais on va voir. À vous de me dire. Et puis, je ne sais pas, en fait, comme j'ai pas écrit de conclusion.
Comme disait Céline Dion, hey, hey.